Chapitre 92, où il est prouvé que chez les artistes, toute chose tourne au profit de l'art. Lorsque Pétrus arriva à la porte du maréchal de La Motte-Houdan, sa montre marquait 1h15. Il pouvait donc à la rigueur se présenter. Cette avance d'un quart d'heure serait regardée comme de l'empressement et non comme de l'indiscrétion. Mais à peine eut-il fait quelques pas dans la cour que le Suisse l'arrêta en lui disant que Mademoiselle de La Motte-Houdan était sortie dès le matin et qu'on ignorait à quelle heure elle reviendrait. Il demanda au brave homme s'il avait reçu quelques instructions à son endroit. Le Suisse n'en avait reçu aucune. Il n'y avait rien à faire. Pousser plus loin les questions, c'eût été un manque de savoir-vivre dont Pétrus était incapable. Il se retira donc. Comme il était dans le quartier de Jean Robert, à l'extrémité de la rue de l'Université, il résolut d'aller faire une visite à son ami et enfila l'immense rue. Jean Robert, vers 7 heures du matin, était rentré, avait sellé lui-même son cheval, était parti au galop, en disant que l'on ne fût pas inquiet de lui si son absence se prolongeait et n'avait point reparu. Il fallait tuer le temps. Pétrus songea à Ludovic et reprit le chemin des hauts quartiers du Luxembourg. Ludovic n'était pas encore rentré. Quant au général de Courtenay, il devait être à la chambre, inutile de se présenter à son hôtel. Pétrus rentra chez lui et se mit à esquisser, de souvenir, un portrait de la petite Rose de Noël sous le costume de la Mignon de Goethe. Il avait choisi le moment où la petite bohémienne, pour distraire Wilhelm Meister, exécute la danse des œufs. Vers 5 heures du soir, un domestique à la livrée du maréchal apporta un billet de la part de la princesse Regina. Pétrus eut toutes les peines du monde à se contenir et à prendre le billet d'un air indifférent. Il l'ouvrit tout tremblant, quoiqu'il doutât que ce billet fût de Regina elle-même, mais à la signature il reconnut que c'était bien elle qui l'avait écrit. Voici ce qu'il lut. « Excusez-moi, monsieur, de ne point m'être trouvé chez moi ce matin lorsque vous avez bien voulu vous y présenter. Un accident funeste arrivé à l'une de mes meilleures amies de pension m'a retenu toute la matinée hors de Paris. » J'arrive seulement à 4 heures et j'apprends que vous êtes venu. J'eusse dû vous écrire ce matin pour vous épargner cette peine. Vous m'excuserez, je l'espère, en songeant au trouble où j'étais. Ne pouvant réparer ma faute, je l'atténue. Serez-vous libre demain à midi, monsieur? Ma famille a hâte de posséder achevé votre magnifique portrait. Regina. Dites à la princesse, répondit Pétrus, que je serai demain chez elle à l'heure indiquée. Le domestique se retira, Pétrus resta seul. 3 jours auparavant, un pareil billet l'eût comblé de bonheur. La seule vue de l'écriture de Regina l'eût ravi en extase et il eût baisé 100 fois la signature. Mais depuis la révélation du général Herbel à l'endroit du mariage de la jeune fille avec le comte Rapt, il s'était fait un tel bouleversement dans l'âme du jeune homme que la vue de ce billet lui était plus douloureuse qu'agréable. Il lui semblait qu'en ne lui disant rien de la situation où elle se trouvait, Regina l'avait trahi, qu'en se laissant aimer, elle lui avait tendu un piège. Et cependant, il lut et relut la lettre. Ses yeux ne pouvaient se détacher de cette charmante petite écriture, fine, régulière, aristocratique. Il fut interrompu au milieu de cette occupation par le bruit de sa porte qui s'ouvrit de nouveau. Il se retourna machinalement et aperçut Jean Robert. Le poète, après la journée orageuse qu'il avait passée, arrivait du Bas-Meudon. Il était venu droit chez Pétrus, comme Pétrus avait été droit chez lui. Si Pétrus eût trouvé Jean Robert rue de l'Université, il lui eût probablement, dans ce premier moment de dépit où le cœur déborde, parlé de cette séance manquée et de l'original du portrait qu'il était en train de faire. Mais 3 ou 4 heures de travail, couronnées par la lettre de Regina, avaient rendu au jeune homme, sinon le calme, du moins une certaine puissance sur lui-même. C'était Jean Robert qui venait chez Pétrus, ce fut Jean Robert qui parla. Pétris, lui, n'avait que le cœur plein. Jean Robert avait le cœur et l'esprit également préoccupés, mais à la manière égoïste des poètes, c'est-à-dire au point de vue de ce qu'ils pouvaient tirer en roman ou en drame des événements de la journée. Malgré l'emphatique exorde de son ami, Pétrus, tout au souvenir des événements de sa propre journée, ne prêtait qu'une médiocre attention au récit des amours de Justin et de Mina, quand tout à coup, les regards du narrateur tombèrent sur l'esquisse de la danse des œufs et il s'écria « Tiens, Rose de Noël !»« Rose de Noël ?» demanda Pétrus. « Tu connais cette jeune fille ?»« Mais oui. Comment cela ?» C'est sa vieille bohémienne de mère qui a trouvé la lettre que Mina avait jetée par la portière de la voiture. J'ai été chez elle avec Salvatore. En effet, elle m'a dit connaître notre amie de la nuit dernière. C'est son protecteur, il veille sur elle, s'occupe de sa santé, lui envoie des médecins, la fait changer de logement. Il paraît que cette affreuse brocante est une vieille avare qui laisse l'enfant mourir de froid l'hiver, de chaud l'été. « Est-ce que tu ne trouves pas cette petite fille ravissante, Pétrus ?»« Tu vois bien que si, puisque je fais son portrait. »« Oh, mignon, ah, c'est une bonne idée. Moi aussi, j'ai pensé tout de suite. Oh, si j'avais une actrice comme celle-là, je ferais un drame du roman de Goethe. »« Attends, dit Pétrus, je vais te montrer autre chose alors. » Il tira de son carton le grand dessin qu'il avait fait quelques jours auparavant dans le salon des fleurs de Regina. Puis, comme Jean Robert s'approchait pour regarder, « Une minute, dit-il, j'ai encore quelques coups de crayon à donner. » En effet, on se rappelle que dans ce dessin représentant Rose de Noël, trouvée grelottante avec ses chiens dans un fossé du boulevard Montparnasse, il avait fait d'imagination la tête de la petite bohémienne. En 5 minutes, la tête rêvée fut effacée et la tête réelle mise à sa place. « Regarde maintenant, dit Pétrus. « Ah mais, fit Jean-Robert, sais-tu que c'est très beau, cela ?» Puis tout à coup, « Tiens, dit-il, le portrait de mademoiselle de la Motte-Houdan. » Pétrus tressaillit. « Comment, demanda-t-il, que veux-tu dire ? N'est-ce point là le portrait de la fille du maréchal, là, en Amazone ?»« Oui, tu la connais donc ?»« Je l'avais vue une ou deux fois chez le duc de Fitz-James, et je l'ai revue aujourd'hui. Voilà pourquoi la ressemblance de cette Amazone avec elle m'a sauté aux yeux. » « Tu l'as revue ? Et où cela ?»« Oh, dans une circonstance terrible. Agenouillée avec deux de ses amis de pension, élèves de Saint-Denis comme elle, devant le lit d'une pauvre enfant qui avait voulu s'asphyxier, mais qui n'a pas réussi. »« Oui, dit Jean-Robert avec tristesse, elle a eu ce malheur. »« Ce malheur ? Sans doute, puisqu'elle s'asphyxiait avec son amant et que son amant est mort. » C'est tout cela que j'allais te raconter, cher ami, lorsque, en même temps que je remarquais ta préoccupation, qui te faisait prêter une oreille médiocrement attentive à mon récit, j'ai reconnu le portrait de Rose Noël. « Pardon, Robert, dit Pétrus, en souriant au jeune poète et en lui tendant la main. J'étais préoccupé, c'est vrai, mais ma préoccupation est passée. Raconte, mon ami, raconte. » Ainsi est faite l'âme humaine dans ses rapports avec les objets extérieurs, égoïste presque toujours. Pétrus, insouciant au récit des amours de Justin et de Mina, tant qu'il avait ignoré l'intervention de Rose Noël dans ses amours, Pétrus, distrait au récit des malheurs de Colomban et de Carmélite, tant qu'il n'y avait pas vu apparaître mademoiselle de la Motte-Houdan, Pétrus était avide maintenant d'entendre cette double narration à laquelle Regina se trouvait mêlée, d'un côté indirectement par Rose de Noël, de l'autre directement par elle-même. Pétrus n'avait pas douté un instant que Regina n'eût été attirée hors de chez elle par un accident arrivé à l'une de ses amies, mais il était enchanté que Jean-Robert vînt confirmer la réalité de l'accident. D'ailleurs, Jean-Robert avait parlé en poète de la beauté de mademoiselle de la Roche-Houdan. Et malgré le sentiment de la jalousie qui brûlait son cœur quand il songeait que cette beauté appartenait d'avance à un autre, Pétrus était fier et heureux de cette beauté. Puis il apprenait une chose, c'est que Madame Lydie de Marande, chez laquelle il s'était fait présenter, et que son oncle lui avait reproché de n'avoir point revu, était non seulement une connaissance de Regina, mais encore une amie intime de la jeune princesse, une de ses compagnes de Saint-Denis. Il en était ainsi de cette jeune fille dont Jean-Robert ne savait rien d'autre que le nom, qui vivait avec Salvatore et que l'on appelait Fragola. Dès lors, le récit de Jean-Robert prenait aux yeux et aux oreilles de Pétrus un intérêt prodigieux. Nous disons « aux yeux » parce que, en même temps que les oreilles entendaient, les yeux voyaient. De son côté, Jean-Robert, sentant qu'il était écouté, et qu'en termes d'artiste il faisait son effet, de son côté, Jean-Robert racontait en poète. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, la narration prenait une telle influence sur Pétrus qu'il ne se contenta bientôt plus des détails vagues et diffus du récit. Il mit un crayon à la main de Jean-Robert et le pria de lui donner une idée du spectacle funèbre que présentait la chambre de Carmélite. Jean-Robert était loin d'être peintre, mais c'était un habile metteur en scène. C'était lui, d'habitude, lorsqu'il montait une pièce qui allait à la bibliothèque, dessinait ou calquait les costumes, faisait le plan et jusqu'aux maquettes des décorations. Il avait en outre cette mémoire particulière aux romanciers qui leur permet de décrire fidèlement la localité qu'ils n'ont vue qu'une fois ou même qu'ils n'ont fait qu'entrevoir. Jean-Robert prit un papier et traça d'abord le plan géométral de la chambre de Carmélite. Puis, sur un autre papier, il indiqua l'aspect de cette chambre avec les trois jeunes filles groupées autour de la quatrième étendue sur le lit et dans le fond, sous son magnifique costume de dominicain, Saranti, le beau prêtre, calme, sévère, immobile comme la statue de la contemplation. Pétrus se suivait avidement des yeux. Avant même qu'il n'eût fini, il lui tira le papier des mains. « Merci, dit-il, j'ai tout ce qu'il me faut. Mon tableau est fait. Donne-moi seulement quelques détails sur le costume des élèves de Saint-Denis. » Jean-Robert prit la boîte de l'aquarelle et indiqua les couleurs sur une des jeunes filles agenouillées. « Ah, c'est cela, fit Pétrus. » Et à son tour, il prit un papier Bristol et, devant Jean-Robert, commença d'esquisser cette scène douloureuse dont le poète lui avait fait un croquis informe, mais un récit plein de couleurs et de vérité. Les jeunes gens se quittèrent assez avant dans la nuit. Le lendemain, à midi juste, Pétrus se présentait à l'hôtel du maréchal de La Motte-Houdan. Qui venait-il faire? Qu'allait-il dire? Il n'en savait rien. Il s'était, pendant ces deux jours d'attente, préparé, pour ainsi dire, le cœur à d'immenses tristesses, à de profondes douleurs.